Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin.
Je voudrais dédier le cours d'aujourd'hui à la mémoire de Brigitte Groneberg, une collègue allemande qui nous a quittés il y a quelques jours après une longue maladie. Il va être beaucoup question aujourd'hui de géographie historique et je rappelle qu'on lui doit le volume 3 du répertoire géographique des textes cunéiformes, paru en 1980. Elle avait passé l'année 1989-90 à Paris, invitée par Jean-Marie Durand dans notre équipe CNRS, et elle est ensuite devenue professeure à l'université de Hambourg et à partir de 1999 à Göttingen, où elle a occupé les fonctions de vice-présidente. C'était une personnalité très attachante et une savante aux compétences multiples qui n'aura hélas guère pu profiter de sa retraite. Après deux séances consacrées à l'Ida Maratz, et en particulier aux villes d'Achnakoum, Narour et Ilansoura, nous nous déplaçons aujourd'hui vers l'Est. On y rencontre le pays d'Apoum, avec comme capitale une ville qui portait le double nom de Cherna et Shubat Enlil. Et en disant cela, je viens de vous révéler la conclusion de notre enquête. Mais elle est si complexe que je préfère vous donner d'emblée des repères. Shubat Enlil est surtout célèbre comme ayant été le lieu d'où Samsiadou exerça son pouvoir sur toute la haute Mésopotamie, mais les recherches depuis 1979, aussi bien sur le terrain que dans les archives de Marie, ont permis d'élargir nos perspectives et compléter nos connaissances. Dès 1878, le site de Tel Leilan avait attiré l'attention de Rassam, et il a par la suite été souvent visité et décrit. Et il est vrai que, vu de la plaine, le tel est très impressionnant. Nous avons déjà vu certains éléments de l'histoire de la recherche ayant conduit à la localisation de Shubat Enlil. Les trois premiers savants qui proposèrent d'identifier cette ville à Tel Leilan furent Margarete Falkner en 1958 et ensuite Bartel Ruda et Wilhelm van Leer. Alors un mot sur Margarete Falkner, qui n'est plus connue des assyriologues que par cet article sur la géographie historique. Elle est née en 1922, c'était une archéologue de formation, manifestement très brillante. Elle a été, à partir de 1952, l'assistante de Ernst Weidner, qu'elle aida beaucoup dans l'édition de la revue Archive für Orientforschung. En 1958, elle est devenue, comme on dit en allemand, professeure extraordinaire à l'université de Graz. Et je m'étais toujours demandé pourquoi sa bibliographie n'était pas plus abondante. Et j'ai compris, en lisant sa nécrologie, tandis que je préparais ce cours, elle est morte soudainement d'une rupture d'anévrisme alors qu'elle avait à peine 40 ans. Donc, je termine cette parenthèse historiographique et je reviens à l'équation Tel Leilan égale Shubat Enlil. C'est une proposition qui a été reprise par William Hallow dans sa publication en 1964 du fameux itinéraire de Yale intitulé « The Road to Emar ». Mais jusqu'en 1978, donc pendant un siècle à la suite du signalement par Rassam, personne ne s'était proposé pour fouiller le site. Le contexte de la fouille de Leilan, c'est celui de la fermeture de l'Iran à la recherche archéologique à partir de la révolution qui débuta en janvier 1978 et dont il faut bien dire que l'archéologie syrienne a indirectement beaucoup profité. Harvey Weiss avait commencé par fouiller en Iran, et notamment à Godin Tepe, contraint de se choisir un nouveau terrain, et sans doute poussé par Hallow, son collègue à Yale, il a finalement jeté son dévolu sur Tel Leilan. Situé à 25 km au sud-est de l'actuelle ville de Kamishli, Tel Leilan se trouve sur la rive gauche du Wadi Jarrah, qui est un affluent du Jagjag, lui-même affluent du Khabour. La mission a commencé en 1978 par une campagne de topographie et de prospection systématique de la surface du Tel. lequel est énorme puisqu'il mesure pas moins de 90 hectares avec une acropole de 15 hectares sur laquelle un village est installé, ce qui évidemment limite beaucoup les possibilités d'y fouiller et c'est pourquoi la majorité des opérations ont eu lieu, comme vous le voyez sur la carte, dans la ville basse. Les fouilles ont commencé en 1979 et ont dû s'arrêter en 2008, donc elles ont duré pas moins de 30 ans. Un article assez peu connu paru dans le Journal des Savants permet de se faire une très bonne idée des 5 premières campagnes de fouilles qui sont pour nous les plus importantes. On peut le compléter de deux manières, par l'article de synthèse de Loren Ristvay et Harvey Weiss dans le Real Lexicon der Assyriologie, en anglais, paru en 2012, et puis le site internet de la fouille sur le site de l'université de Yale. Il y a beaucoup de bibliographie qui y est accessible, et en particulier des PDF de tas de publications. Les publications archéologiques définitives ne sont cependant pas nombreuses. Et l'une des raisons de cette situation, à vrai dire préoccupante, c'est l'obsession du directeur de la mission depuis des années pour un événement qu'il décrit comme 4.2 KABP, autrement dit, un événement qui se serait produit vers 4200 avant le présent. Il s'agit de l'accroissement brutal de la poussière dans l'atmosphère qui a été repérée à Tel Leilan pour cette période. Alors, son origine reste discutée. Weiss a surtout parlé d'une éruption volcanique, mais il y a eu d'autres hypothèses. Cet événement soudain aurait entraîné une méga-famine, je traduis ainsi l'American Mega-Drought, qui aurait conduit à l'effondrement de l'Empire d'Akkad vers 2200 avant notre ère. Alors, je ne m'attarderai pas sur ce dossier parce qu'il ne concerne pas directement notre enquête, mais je ne pouvais pas ne pas le mentionner. Il y a eu à Tel Leilan pas moins de 7 épigraphistes différents. Le chef de la mission a appliqué avec constance le mot d'ordre « divisé pour régner ». Pour commencer, Harvey Weiss avait sollicité son collègue Benjamin Foster en 1979. En 1980, ce fut Daniel Snell. Alors, je n'ai pas trouvé de photo d'époque, donc c'est une photo de notre collègue à peu près tel qu'il est aujourd'hui. Puis ce fut Robert Whiting pendant 2 campagnes, en 1982 et 1985. Nouvel épigraphiste en 1987, le Danois Jesper Eidem. Et puis, pour terminer, Marc van Mierop pour la campagne de 1991. Et ensuite, eh bien, Harvey Weiss a plus ou moins réussi son rêve, fouiller ce qui l'intéressait, c'est-à-dire les couches du troisième millénaire, sans être gêné par ces textes qui sont vraiment la plaie des archéologues sérieux. J'exagère à peine, mais je ne voudrais pas sombrer dans une polémique de bas étage. Et pas de chance, même dans les couches du troisième millénaire, il est tombé sur des tablettes. Il faut en effet signaler la découverte en 1999 et 2002 d'une vingtaine de tablettes, heureusement une vingtaine seulement, rassurez-vous, d'époque paléo-acadienne dans ce qui a été appelé le Acadian Administrative Building et ses environs, tablettes qui étaient d'ailleurs assez mal conservées. Elles sont pour la plupart de nature scolaire et ont été publiées par Lucio Milano. Le bilan, en se limitant à l'époque paléo-babylonienne, est donc le suivant. Sur les quelques 1200 textes découverts entre 1979 et 1987, il y en a 256 qui ont été publiés de manière définitive, à quoi s'ajoutent 336 publiés de manière préliminaire dans 2 thèses restées inédites, ce qui fait un total donc de 591 textes. Nous verrons d'abord le problème complexe que pose Tel Leilan du point de vue de la géographie historique. Le reste du cours sera découpé en 3 périodes, le royaume de Haute-Mésopotamie et son démembrement, puis la phase contemporaine du règne de Zimri-Lim, enfin la période qui va jusqu'à la destruction de la ville en 1728. Imaginez un historien dans 4000 ans qui ne disposerait pas d'ouvrages d'ensemble sur l'histoire de France, mais seulement de quelques documents d'archives et d'aucune carte. Il retirerait l'impression que Paris était la capitale de la France, mais du coup, il aurait du mal à comprendre le statut de Versailles. Et puis par ailleurs, pourquoi donc le couronnement des rois se faisait-il à Reims ? Et enfin, le fait que les souverains étaient enterrés à Saint-Denis lui poserait des problèmes. Eh bien, vous allez voir que c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons à propos du dossier que nous allons traiter ce matin. Il nous faut analyser les rapports entre trois toponymes, Choubat-en-l'Île, Apoum et Cherna. Choubat-en-l'Île, je l'ai déjà dit, était surtout célèbre comme lieu de résidence de Samsiadou, et donc on pouvait espérer que la fouille de Tel Leilan permettrait rapidement de confirmer son identification présumée avec Choubat-en-l'Île. Il n'en fut rien. En effet, les débuts de la fouille de Tel Leilan furent déconcertants. C'est ce que avoua Harvey Weiss lors du colloque qui célébrait le cinquantenaire de la découverte de Marie, qui s'est tenu à Strasbourg en juin-juillet 1983. Il a résumé l'historiographie du sujet et puis ensuite il a présenté les résultats des trois premières campagnes de fouilles en 1979, 1980 et 1982. Sur l'Acropole, un grand temple avait commencé à apparaître avec de très belles colonnes torsadées, comme on en connaissait déjà à Our, à Tel Rima ou à Larsa, d'autres encore en forme de tronc de palmier. Or, on retrouva dans ce bâtiment des sceaux de serviteurs de Shamshi-Adad ou Samsi-Adou, mais également d'un serviteur de Turum-Natki qu'on ne savait pas à l'époque encore localisé, et aussi d'un serviteur de Khaya Apoum, qui était alors connu comme roi du pays d'Apoum. Et Harvey Weiss avait donc terminé sa communication en ces termes. Les données fournies aujourd'hui par les premières fouilles à Tel Leilan viennent considérablement enrichir les données géographiques historiques qui ont été avancées pour identifier le site comme étant Choubat-en-l'Île. Il n'existe toutefois aucune donnée permettant d'affirmer cette identification avec certitude. Il est possible d'interpréter les preuves disponibles d'une autre manière, mais cela n'est pas sans difficulté. Vous voyez les allées et venues. Je vais parler d'embarras. Les empreintes de sceaux de Khaya Apoum, par exemple, pourraient être considérées comme venant étayer l'identification du site comme étant Apoum. Cette ville n'est toutefois pas attestée dans nos sources pour le troisième millénaire avant notre ère, période pendant laquelle Tel Leilan est devenue l'une des plus grandes villes fortifiées du nord de la Mésopotamie. De même, il convient de se demander quel aurait pu être le nom de Tel Leilan au troisième millénaire si le site était Choubat-en-l'Île au deuxième millénaire. Eh bien, c'est dans la correspondance de Yamsoum, dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, que j'ai travaillé juste après, que j'ai trouvé la réponse à ces questions et du coup, la solution du problème. Je l'ai présenté d'abord à Yale. Il y avait cette année-là un meeting de l'American Oriental Society en mars 86, donc voilà déjà 40 ans, et ensuite à la rencontre assyriologique de Paris en juillet de la même année. Les lettres de Yamsoum ont montré que la ville de Choubat-en-l'Île était parfois désignée sous un autre nom, celui de Cherna. Le contexte, je vous le rappelle, se situe sous Imrilim au moment où Kunnam avait envahi la région à la tête d'une armée élamite. On pouvait lire dans une lettre de Yamsoum « Depuis que Kunnam est entré à Cherna ». Et j'avais alors résumé les 17 attestations du toponyme Cherna dans les lettres de Yamsoum et je concluais, on peut légitimement s'étonner de l'importance que revêt soudainement cette ville de Cherna alors qu'elle était inattestée jusqu'à présent, sous-entendu, dans les archives de Marie. En outre, l'élamite Kunnam était déjà documenté dans les textes de Marie, mais sous la désignation d'homme de Choubat-en-l'Île. La lettre à RM 1401 nous apprend qu'Atamroum se propose soit de faire sortir Kunnam de Choubat-en-l'Île par la ruse, soit, s'il refuse de sortir, de le tuer et de rendre Choubat-en-l'Île à son maître, c'est-à-dire clairement dans le contexte Azimrilim. D'un côté, Kunnam est présenté comme le maître de Cherna, de l'autre comme le maître de Choubat-en-l'Île. Il apparaît à l'évidence que Cherna et Choubat-en-l'Île sont deux noms différents pour une seule et même ville. Or, Cherna apparaît dans deux textes du IIIe millénaire découverts à Tel Brak par Malowan. On a fait allusion à ses travaux entre les deux guerres, dont la copie avait été publiée par Gade en 1938. Et Karl-Heinz Kessler avait attiré l'attention sur ces textes dans un article de 1984. Il avait rapproché le toponyme qu'il lisait alors Chourna, de la ville de Charna, mentionnée dans le nom de l'an 23 de Samsu-Iluna. Les textes de Marie montrent que le nom se disait le plus souvent Cherna. On avait donc affaire à une ville d'abord connue à l'époque d'Agadé sous le nom de Cherna. Elle a été renommée Shubat-Enlil, demeure du dieu Enlil, à peu près sûrement au moment où Samsiadou décida de relever cette ville de ses ruines, mais après sa mort, l'ancien nom de Cherna a été à nouveau employé et la ville, finalement, a été détruite par le roi de Babylone, Samsu-Iluna. Depuis que j'ai fait cette proposition, on a eu d'autres exemples du même phénomène, notamment en ce qui concerne Shubat-Shamash. Il a été possible de montrer que la même ville, située dans la haute vallée du Balir, était parfois désigné sous le nom de Hanzat. Je vais terminer en vous faisant un aveu. J'ai été heureux, en consultant l'article Tel Leilan sur Wikipédia, de voir que l'équation Cherna égale Shubat Enlil était bien indiquée, mais un peu fâché de constater que mon article de 1985 était absent de la bibliographie qui citait essentiellement les travaux de Harvey Weiss et de Jesper Heidem. Il s'agit quand même d'une plus belle découverte, et donc j'ai rajouté la référence. Donc si vous consultez l'article à partir de maintenant, vous verrez que mon article y figure. Everest en français, mais bon. Là, le Wikipédia, c'est le Wikipédia français. Mais restait le problème d'Apoum. On croyait, en 1983, qu'Apoum était une ville, surtout parce que le toponyme était mentionné, vous vous rappelez, comme étape sur la route qui conduisait les marchands assyriens vers l'Anatolie. On a déjà vu, à propos de Nahour, cette séquence, Katara, Daragoum, Apoum, Amaz, Nahour et Louraya. Cependant, parmi les textes que j'avais réunis pour ARM 26.2, figuraient, à côté des lettres de Yamtsum, des lettres de Yanur Samar, qu'on savait avoir été le vizir de Khaya Apoum, connu jusqu'alors comme roi du pays d'Apoum, à l'époque de Zimrilim, on y reviendra. Et une de ces lettres s'achevait ainsi: Khaya Apoum va bien, pour la ville de Cherna, les villages du pays d'Apoum et les serviteurs de Monseigneur, ça va bien. Et j'en concluais, étant donné que Khaya Apoum est connu comme roi du pays d'Apoum, et vu d'autre part l'opposition entre Cherna et les villages du pays d'Apoum, la distinction, il faudrait dire plus exactement, on doit conclure que Cherna était la capitale du pays d'Apoum, où résidait le roi Khaya Apoum, ainsi que le fonctionnaire Yanur Samar. Et donc, la ville de Cherna égale Shubat Enlil était clairement la capitale du pays d'Apoum. Et le nom de l'année 23 de Samsu-Iluna le confirmait définitivement. Et paradoxalement, il s'agit d'une version longue qu'on trouve sur une tablette provenant de Larsa, dans le sud de l'Irak, année où le roi Samsu-Iluna, grâce à la force impétueuse qu'Enlil lui a donnée, détruisit Cherna. Et là, il faut lire la capitale, en sumérien Uru-Sag, du pays d'Apoum, ainsi que Zarhanum, Putra et Susa, les textes de Marie montrant que ces trois dernières villes étaient en effet dans les environs de Shubat Enlil. Il faut ajouter qu'une des divinités majeures qui recevait un culte à Shubat Enlil s'appelait Belet Apim, la dame d'Apoum. Et j'ai eu la chance de pouvoir publier une tablette dans laquelle est décrit le temple de cette déesse à Shubat Enlil. Le scribe y donne la largeur et la longueur de trois espaces qu'il nomme Kummum, Paparum et Kisalum. Nous savons que Kisalum désigne une cour, le paparum est donc une sorte de antecella, si l'on peut dire, alors que la pièce la plus sacrée, tout au fond, est décrite comme kummum. Alors j'ai tenté, en fonction de ce que les archéologues ont dégagé pour d'autres temples, de reconstituer le plan que ce bâtiment pouvait avoir. D'après les dimensions données dans la tablette, il ne peut pas s'agir du temple qui a été partiellement dégagé sur l'acropole. Il reste donc à découvrir. Et l'épigraphiste se trouve donc, dans l'occurrence, dans la même position que le verrier qui avait calculé la position de Neptune avant même que cette planète soit observée. Mais pour l'instant, on n'a pas encore la confirmation. Depuis que j'ai écrit mon article de Marie V, la documentation s'est accrue et, comme souvent, on a découvert que la situation était plus complexe. Et donc, je ne me limiterai pas à un numéro d'anciens combattants. Je voudrais maintenant vous présenter le résultat de recherches en cours. Il est d'abord apparu qu'en dehors du pays d'Apoum, il avait bien existé une ville nommée Apoum, mais celle que l'on pouvait le mieux connaître n'était pas située en rapport avec le pays d'Apoum, elle se trouvait au sud du Djebel Sinjar. J'ai écrit une étude à son sujet il y a une dizaine d'années et dans une contribution à un volume de mélange encore sous presse, j'ai pu apporter davantage de renseignements sur cette ville d'Apoum, donc située encore une fois au sud du Djebel Sinjar. Le point de départ est une enveloppe fragmentaire qui comportait l'empreinte de sceau d'un certain Baninoum. Jean-Marie Durand et moi-même l'avions publié en 1985 dans Marie IV à cause de sa légende tout à fait inhabituelle. Le sceau avait initialement une légende normale, Baninoum, fils de Moulhan, serviteur de Yardounlim, mais on a ajouté trois lignes supplémentaires. Donc on voit bien ici, on voit bien ici les trois lignes normales qu'on retrouve ici, et vous voyez qu'il y a des lignes supplémentaires. Et ces lignes supplémentaires disent « celui qui a restauré la descendance de Yardounlim ». Donc on a manifestement ici une allusion à la montée de Zimrilim sur le trône. Or, la personne qui a joué le rôle majeur dans cette restauration de la dynastie de Yardounlim à Mari est bien connu, c'est le chef de pâture Baninoum. Baninoum est clairement une autre forme de son nom, sans que le « i » soit élidé, et ce sceau donc appartenait à Baninoum. Nous n'en possédons pas d'autres empreintes. Et donc la question, c'était de savoir quelle tablette cette enveloppe pouvait au départ avoir contenu. Alors en retournant l'enveloppe, on a réussi, à l'aide d'un miroir, à lire le texte de la tablette, puisque, comme souvent, il était partiellement conservé en négatif sur la surface interne de l'enveloppe. Et notre déchiffrement était le suivant, avec un certain nombre de restitutions, surtout pour la ligne 1, qui n'étaient pas certaines. Et donc, pour identifier la tablette, eh bien, il fallait se concentrer sur les lignes bien conservées. Et donc, qu'ai-je fait ? Eh bien, j'ai pris tout simplement deux li'im oudouhia, 2000 moutons, et j'ai demandé à Archibab, est-ce que tu connais des tablettes dans lesquelles il y a 2000 moutons ? Et voilà la réponse. Il y avait trois textes, et c'est le premier qui s'est révélé correspondre au passage qui avait été déchiffré. Cette tablette avait été publiée dans ARM 25 et a été rééditée par Jean-Marie Durand dans ARM 30. On lit ceci. Lorsqu'on a pris à Poum 2000 ovins moitié, 5 mines d'argent, 2 talents de bronze, 20 domestiques, 5 ânes, 5 bovins, moitié du roi, c'est ce que Kakoussoum a pris. Et ensuite, on voit 200 ovins une première fois, 150 ovins une seconde fois, et puis il y a un nom propre cassé qui se termine en tan, 200 ovins, 6 mines d'argent, 10 étoffes, 10 habits, Narlaptoum, c'est ce que Yumtsi-El a pris des mains de Abi Epour. Le texte n'est malheureusement pas daté, alors qu'il y avait la place pour inscrire une date, mais l'empreinte du sceau de Baninoum donne une indication, puisque on sait que Baninoum est mort vers la fin de la première année de Zimrilim. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que vous voyez que le texte est parfaitement conservé et que le nom de Bannoum n'y apparaît pas. Qu'est-ce que c'est que ce texte scellé par Bannoum, mais dans lequel lui-même n'apparaît pas? Alors, il faut faire une enquête prosopographique, on s'aperçoit que les gens qui sont mentionnés dans ce document sont tous connus comme originaires de la région du Souroum, c'est-à-dire la vallée de l'Euphrate, en aval de Marie, qui est au sud du Djebel Sinjar. Et donc, la ville d'Apoum qui a été prise, c'est clairement la localité située au sud du Sinjar, ce qui est en même temps logique si on se situe au moment de la reconquête du royaume de Marie par les troupes de Zimrilim. Alors je vous passe le détail de l'analyse pour arriver à la conclusion. Ce texte, en fait, enregistre des irrégularités qui se seraient produites à la suite du partage du butin fait à Apoum. Kakoussoum se serait emparé de la part du roi et Yumtsiel aurait illégalement reçu des mains de Abiyepour une part importante du reste. Le document scellé par Bannoum serait une dénonciation de prévarication effectuée au détriment du souverain. Mais en plus de cette ville d'Apoum située au sud du Sinjar, il me semble aujourd'hui certain qu'il en existait une autre au nord de cette montagne. Et ce ne serait pas le seul exemple de ce que j'ai appelé la toponymie en miroir. On connaît ainsi deux villes nommées Saproum, l'une située précisément dans le pays d'Apoum et l'autre clairement au sud du Sinjar. Le texte le plus important, c'est une lettre de Khali Khadoun que j'avais citée partiellement dans mon étude de Marie V et qui vient d'être publiée par Jean-Marie Durand dans ARM 35. On y lit « En outre, Karnilim a enterré Turumnatki à Apoum. Il a alors réuni les rois des alentours de Shubat-Enlil et ils ont fait la déploration pour Turumnatki. Et Karnilim s'étant mis en deuxième place, ils ont installé le fils de Turumnatki à la royauté dans Shubat Enlil. » Alors, dans son édition, Jean-Marie Durand a traduit dans l'Apoum en considérant qu'il s'agit du pays. Mais si on regarde le passage sans préjugé, Apoum apparaît ici comme un toponyme. Et il serait très étonnant qu'on dise qu'un roi a été enterré dans le pays d'Apoum. On enterre les gens dans une ville, pas dans la campagne. Et donc, il y a ici une claire différence entre Apoum, le lieu où Turumnatki a été enterré, et Shubat Enlil, le lieu où le fils de Turumnatki a été proclamé roi. Saint-Denis, vous disais-je. Alors, où peut-on situer cette ville d'Apoum? Les avis ont divergé et on n'a pas de solution définitive. Harvey Weiss avait pensé un moment que le terme aurait pu désigner la ville basse de Tel Leilan, le nom de Shubat Enlil n'ayant concerné que l'acropole, on peut oublier cette solution. Jasper Haidam a proposé de situer Apoum à Tel Haïd, à 15 km à l'ouest de Leilan, parce que c'est le site le plus gros dans les environs de Shubat Enlil. Et puis de son côté, Klaas Venhoff s'est demandé si ça ne pouvait pas être le nom antique de Tel Mohamed Diab. J'avais de mon côté proposé une identification à Zamroul, mais en disant que ce n'était pas du tout certain. Alors, c'est un tel qui est cher à mon cœur, puisque c'est là, à 7 km à l'est de Tel Leilan, qu'une fouille a été ouverte sous la direction de Jean-Marie Durand en 1987, à laquelle j'ai participé jusqu'en 1993, Christophe Nicole étant devenu directeur de la mission en 2005. J'avais proposé en 1990 que le site donc puisse être l'antique Azamroul, mais la proposition de Venhoff est également tout à fait possible. Il faut ajouter au dossier le cas de la déesse Belet Nagar. En effet, les déesses dont le nom est semblable à Belet Nagar ont leur nom construit avec celui d'une ville et pas d'un pays. Par exemple, Belet Nagar, et voilà. Donc, on voit que le cas de la ville d'Apoum, au nord du Sinjar, est encore ouvert, mais clairement, il y a bel et bien une ville qui porte ce nom et qui est homonyme de la ville d'Apoum, située au sud du Sinjar. Une fois traitées ces questions de géographie historique, nous allons d'abord définir le rôle de Samsi-Hadou dans l'histoire de Shubat Enlil, avant de voir ce que devint la ville dans les années qui ont suivi son décès. Nous n'avons pas la preuve absolue que c'est Samsi-Hadou qui changea le nom de Cherna en Shubat Enlil, mais il n'y a guère de doute sur ce point. On sait en effet qu'il avait bâti un temple au dieu Enlil dans la ville d'Ashur. Or, le culte du chef du panthéon sumérien était jusqu'alors inconnu en Haute-Mésopotamie, mais on ignore à quelle date exacte le nouveau nom a été donné à l'antique Cherna. Une autre question est de savoir si l'on peut considérer Shubat Enlil comme la capitale de Samsi-Hadou. Je ne crois pas. On a eu tendance à le penser du fait que ses deux fils ont été installés comme rois dans deux des villes majeures de l'empire qu'il créa, Ishmedagan à Ekallatoum et Yasmaradou à Mari. Et donc, par élimination, si je puis dire, Shubat Enlil, où Samsi-Hadou a très souvent résidé dans les 20 dernières années de sa vie, est apparu comme sa capitale. Mais ça pose un problème théorique. Qu'est-ce qu'une capitale à l'époque ? La communication de Sophie Desmarlafon lors de la 65e rencontre assyriologique internationale en 2019 a tenté d'y répondre. Ce qui frappe, c'est qu'on n'a jusqu'à présent pas trouvé d'épithète qui caractérise Samsi-Hadou par rapport à Shubat Enlil, sauf un passage qui est malheureusement cassé. Et c'est sans doute pour cette raison qu'on a eu tendance à estimer que Shubat Enlil était sa capitale politique, puisqu'on dit que Samsi-Hadou était préposé du dieu Enlil et que Ashur était sa capitale religieuse, puisqu'on dit par ailleurs qu'il est le représentant Ishiakoum du dieu Ashur. Mais il me semble que de tels concepts sont vraisemblablement anachroniques. Et la ville dont il est le roi, c'est en réalité Ekallatoum. Nous y reviendrons dans le dernier cours. Après la mort de Samsi-Hadou, son serviteur Samiya garda le site pendant quelques années. Les archives de Marie nous ont donné beaucoup d'informations à son sujet que Nello Ziegler et moi-même avons résumées dans Florilegium Marianum V. Les textes découverts à Tell Leilan en 1985 sur l'Acropole et datés des éponymes Abou Shalim, Ashurimuki, Enam Ashur, Ikunpi Ishtar et Poussaya appartiennent à cette phase malgré ce qu'avait cru initialement Bob Whiting. Et il est intéressant de noter que certains de ces textes sont scellés au sceau de serviteurs de Samsi-Hadou, Yasmaradou et Ishmedagan. Donc la ville était encore dans l'obédience de la famille de Samsi-Hadou. Et j'avoue être assez enclin à attribuer la construction du palais de la ville basse orientale à cette phase, plutôt qu'à l'époque de Samsi-Hadou. Les richesses de Shubat Enlil à cette époque étaient convoitées par beaucoup, comme le montre cette lettre FM2 116, et il est possible que Samiya s'en soit servi pour financer la construction du bâtiment. Je m'en suis expliqué dans une des deux chroniques dans lesquelles j'ai exploité les données du volume Pirance 117. On a découvert dans la tranchée de fondation d'un mur du niveau 3 une lettre de Samiya. Malheureusement, elle est restée inédite, donc on ne connaît pas son contenu. Mais ce qui est intéressant, c'est que jusqu'au bout, Samiya a utilisé le sceau dans lequel il est décrit comme fils de Raya Malik et serviteur de Samsi-Hadou. On a dégagé une vingtaine de pièces situées entre les cours 4 et 20. Un secteur des cuisines autour de la salle 8 et puis des magasins 5, 22 à 24 et peut-être un secteur de réception entre la salle 1, les salles 2, 3 et les salles 5 et 6. Le dossier de Samiya conservé à Marie est particulièrement intéressant parce qu'il est constitué de tablettes qui ont été manifestement saisies. La ville de Shubat Enlil était à ce moment-là assiégée, et donc Samia a envoyé des appels au secours, et pas de chance, le messager qui avait une sacoche de cuir pleine de lettres destinées à des tas de personnes différentes, eh bien, a été capturé, et on a emmené à Marie le contenu du sac. Et le scribe qui a lu ces lettres s'est vite aperçu qu'elles disaient toutes la même chose, il y avait juste l'entête qui changeait, et donc, à la fin, il ne s'est même pas donné la peine de dégager complètement les tablettes des enveloppes dans lesquelles elles étaient conservées, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez la façon dont on ouvrait une enveloppe pour avoir accès à la lettre qui se trouvait à l'intérieur. Ces lettres, donc, datent du moment où Eshnouna avait envahi la haute Mésopotamie en l'an 3, deuxième Rilim, et voici un extrait d'une lettre adressée au roi d'Eshnouna, Ibal-Piel II. « Nous avons écouté le message que notre Seigneur a fait porter ici au sujet des nouvelles de la ville et de la tablette de serment par les dieux que notre Seigneur a fait porter ici. » Donc c'est Samia qui se trouve à l'intérieur de Shubat Enlil et qui s'adresse au roi d'Eshnouna qui se trouve dans les environs. « Moi-même et mes frères, nous avons prêté le serment par les dieux à notre Seigneur. Depuis que nous avons prêté le serment par les dieux selon la teneur de la tablette que notre Seigneur a fait porter ici, nous sommes à nouveau entrés dans, et puis c'est cassé, et nous avons prêté le serment par les dieux à notre Seigneur devant Shamash du ciel. » Et à présent, Warad Tishpak et son accompagnateur, serviteur de notre Seigneur, qui se sont tenus lors du serment par les dieux, viennent d'entendre le serment par les dieux tel que nous l'avons prêté à notre Seigneur, qu'il retourne chez notre Seigneur et Père. Les envoyés du roi d'Eshnouna, donc, étaient censés confirmer à leur maître que le texte du serment prêté était bien celui qu'il avait souhaité, et justement, parmi les inédits de Marie figure un fragment d'une grande tablette à quatre colonnes qui était un traité d'alliance avec Ibal-Piel, fils de Dadusha, roi d'Eshnouna. Et ce fragment, il a la cote Sal 108-492, alors que la tablette Sal 108-490 est une lettre de Samia. Il est donc très vraisemblable que ce fragment de traité, c'est bien la tablette de serment par les dieux à laquelle la lettre que j'ai citée fait allusion. Mais Samia n'avait pas que des partisans et on possède une lettre où sont reproduits les propos d'une partie des habitants de Shubat Enlil hostiles à Samia. « Tuons Samia et les hauts dignitaires !» Et puis, ou bien choisissons comme roi Marachour, ou bien livrons la ville à Turum Natki, mais ne nous soumettons pas à Eshnouna. Et il est vraisemblable que Samia a disparu sous les coups de ces gens-là. S'ouvre ainsi une nouvelle phase dans l'histoire de la ville. Turum Natki, connu comme roi du pays d'Apoum, réussit à ce moment-là à s'emparer de Shubat Enlil, mais il mourut peu après, dans des circonstances que nous ignorons. J'ai déjà lu tout à l'heure le début de la description de ses obsèques, mais la suite est intéressante. Donc, Karnilim a enterré Turum Natki à Apoum. Il a alors réuni les rois des alentours de Shubat Enlil et ils ont fait la déploration pour Turum Natki. Et Karnilim s'étant mis en deuxième place, ils ont installé le fils de Turum Natki à la royauté dans Shubat Enlil. Alors, au roi de Lidamaratz, qui avait tué les Anons avec Monseigneur et qui s'était installé dans les villes fortifiées, ou bien à qui Monseigneur donnait des ordres, passage est cassé, Karnilim a écrit en ces termes « Pourquoi n'êtes-vous pas venu faire la déploration pour votre frère? Moi qui habite au loin, j'ai fait la déploration pour lui, mais vous, sous-entendu qui êtes proche, vous ne vous êtes pas déplacé. » Donc vous voyez clairement dans ce passage que Shubat Enlil et le pays d'Apoum ne faisaient pas partie de l'Idamaratz, comme on l'a déjà remarqué la semaine dernière. Alors la succession de Turum Natki est une affaire horriblement compliquée, notamment par le fait que, dans l'extrait que je viens de lire, le nom du fils de Turum Natki n'est pas donné. Il semble que Tourmenetki a d'abord eu comme successeur un certain Zouzou, mais on a une lettre de Sametar qui raconte que les habitants de Choubatenlil l'ont détrôné et remplacé par Khaya Aboum, fils de Tourmenetki. Et j'ai publié une lettre qui décrit trois versions différentes de la mort de Zouzou. Et un texte récemment publié par Jean-Marie Durand montre une réalité encore différente de ce qu'on croyait savoir. Il a restitué et traduit le texte de cette façon. Ce qui est en italique, ce sont les passages qui sont cassés et restitués. La conclusion de cette affaire, c'est la royauté de Nouria, fils de Tourmenetki, que Karnilim, à la place de Tourmenetki, a installé à la royauté du pays d'Apoum. Et Nouria, on l'a reconnu lors du rite de l'Anon. Lorsqu'ils ont tué l'âne, Karnilim tenait l'oreille de l'Anon. Alors Nouria en touchait l'échine. Il a dit « Tourmenetki était bien le roi, c'était bien le père de Nouria ». Il me semble que le passage décrit la manière dont Karnilim s'y prit pour imposer ce Nouria à la succession de Tourmenetki, mais la fin, le discours qui est cité, ne peut être mis que dans la bouche de Karnilim. Et donc, je propose de restituer le passage de façon un peu différente. La conclusion de cette affaire, c'est la royauté de Nouria, fils de Tourmenetki, que Karnilim a installée à la royauté du pays d'Apoum à la place de Tourmenetki. Il a fait reconnaître Nouria lors du rite de l'Anon. Lorsqu'ils ont tué l'âne, Karnilim tenait l'oreille de l'Anon et il a approché Nouria de l'Anon en disant « Tourmenetki était bien le roi, c'était bien le père de Nouria ». Mais le problème reste identique. Toutes les autres sources nous montrent que le roi mis en place comme roi du pays d'Apoum s'appelait Khaya Aboum. Jean-Marie Durand a donc conclu à propos de Nouria, la répétition du nom propre ne laisse aucun doute sur sa lecture, or le roi d'Apoum après Tourmenetki ne porte pas ce nom, il est donc possible que le Nouria choisi par Karnilim ait été évincé par un autre, ou que lui-même ait changé de nom. Et il reste à déterminer, donc, dans ce deuxième cas, si Nouria est à tenir comme un autre nom de Zouzou ou s'il s'agit de Khaya Aboum. Quoi qu'il en soit, le roi qui finalement est resté sur le trône de Choubatenlil pendant les années qui suivirent, c'est Khaya Aboum, et il était manifestement encore très jeune lorsqu'il est monté sur le trône à Choubatenlil. Il a donc été placé sous la protection de son puissant voisin, le roi d'Andarig Karnilim, terme de protection qui se dit dans les textes Kidutum. On constate cette dépendance de Khaya Aboum grâce aux tablettes de Marie qui enregistrent l'envoi de cadeaux à Karnilim, donc le roi d'Andarig, son protecteur, et puis à Khaya Aboum, le roi de Choubatenlil, et à Yanur Samar, qui était son vizir. Et cela est confirmé par un serment d'alliance retrouvé à Tel Leilan qui contient l'engagement d'un roi envers Karnilim et Khaya Aboum. Jesper Heidem a en effet publié dans le volume Pirance 117 cinq textes qu'il a qualifiés de traités. Les plus fidèles parmi vous se rappellent que dans mon cours de 2015-2016, j'ai remis en cause cette appellation, considérant que les textes de l'époque paléo-babylonienne qui nous sont parvenus sont de simples serments d'alliance. Vous pourrez lire ou relire ce que j'ai écrit à ce sujet dans mon livre issu de ce cours que j'avais intitulé « Tué de mon sang ». En général, de tels textes contiennent le serment par lequel un roi s'engage à conclure une alliance avec un autre roi. Mais ici, la situation est particulière. Le roi qui s'engage, dont le nom a disparu dans une cassure, alors il reste Rabbi, donc ça peut être soit Mourabi de Kourda, soit Ratnou Rabbi de Katara, on en reparlera, ne prête pas serment à un seul roi, mais à deux. Il s'agit à la fois de Karnilim et de Khaya Aboum. Et comme je n'étais pas d'accord avec un certain nombre de lectures de Jesper Heidem et que j'avais par endroits des idées de restitution différentes, j'ai donné dans la revue d'Assyriologie 110 une réédition du texte et je vous en citerai quelques passages. On trouve, par exemple, un engagement à résister à une tentative de corruption. Si un roi, un gouverneur, un maire ou toute personne, quelle qu'elle soit, qui se trouve dans tout le pays, argent, or, pierres précieuses, objets de luxe, vases alum supplémentaires et n'importe quoi d'autre que la divinité a créé, s'il parle ou fait parler ou envoie une tablette en ces termes, prends cela et sois hostile envers Carnilim et Raya Aboum, je jure que je ne serai pas d'accord avec lui et que je n'accepterai pas. Je jure que je ne serai pas hostile envers Carnilim et Raya Aboum, que je n'irai pas avec leurs ennemis et leurs adversaires, mais que j'irai avec Carnilim et Raya Aboum. On trouve aussi l'acceptation d'extrader les esclaves fugitifs. Et la toute fin du texte ne contient que des engagements à l'égard de Carnilim seul, comme celui-ci. « Contre ce serment par les dieux que j'ai prêté à Carnilim, je jure que je ne ferai ni ne ferai faire tromperie, discours mensonger, ni tout acte de magie noire qui existe dans l'humanité. À partir d'aujourd'hui où j'ai prêté ce serment par mes dieux, tant que je vivrai, je jure que je ne dirai pas ceci. » Étant donné que mon présent serment par mes dieux est devenu vieux, mon engagement solennel est devenu caduque, assez, restitution qui repose sur des parallèles, donc elle est sûre. Je peux être hostile envers Carnilim. Tant que je vivrai, je jure que je ne dirai pas cela. Je jure que je formule et présente ce présent serment par les dieux à Carnilim de tout mon cœur. Donc voilà un texte magnifique qui montre bien que c'est Carnilim le personnage le plus important, mais Raya Aboum est quand même impliqué dans cette alliance. Un autre élément très important pour cette sorte de régence exercée alors par Carnilim a été fourni par les archives du bâtiment décrit par les fouilleurs comme le palais nord de la ville basse. Il a été découvert en 1991, et il n'a été fouillé que pendant une seule campagne. Rendez-vous compte, on y a trouvé 600 tablettes. Donc, il y a seulement 300 mètres carrés qui ont été dégagés. L'architecture de ce qui a été exhumé a été étudiée dans une thèse de doctorat qui est accessible sur le site de Leylan. Un rapport préliminaire a été rapidement publié par Marc Vandemirop, l'épigraphiste de la mission, pour cette campagne. Seulement 24 tablettes ont été publiées dans l'article et 35 ans plus tard, donc le reste attend toujours. Ces archives sont très intéressantes parce qu'elles montrent que ce bâtiment abritait des femmes du harem de Carnilim. Et donc, clairement, lorsque Carnilim, depuis Andarig, traversait le Sinjar et allait à Shubat Enlil, eh bien, il avait ce palais avec un certain nombre de ses épouses qui s'y trouvaient. Ce sont des textes de distribution de bière qui sont tous effectués sous la responsabilité d'un certain Shamash Dayan, et on a retrouvé de nombreuses empreintes de son sceau. Mais voilà que, brutalement, l'horizon s'assombrit. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce moment crucial dans l'histoire de la haute Mésopotamie, les quelques mois où la région a été l'objet d'une attaque par les Élamites. Donc les Élamites, c'est un peuple qui occupait depuis des siècles le plateau iranien, et les sources de Marie montrent que le pouvoir était réparti entre deux personnages, celui qui portait le titre de Soukal ou Soukalmar, que nous traduisions par « empereur », et qui portait un nom élamite difficile à prononcer, « Tsiwepalar Hurpak », et les scribes de Marie, bien souvent, n'y arrivent pas, et ils notent simplement « Cheplarpak ». Et puis, il y a le roi, ou Soukal de Suse, qui s'appelle Kuduzulush. Les Élamites ont commencé par conquérir la ville d'Eshnouna sur la Diyala, et ils avaient eu à ce moment-là l'aide des rois de Babylone et de Marie. Mais le problème, c'est que l'empereur Élamite a poursuivi sur sa lancée et il a envoyé une armée composée de soldats d'Eshnouna et de soldats Élamites en direction de la haute Mésopotamie. Atamroum était à leur tête et il a commencé par mettre à mort le roi d'Andarig, Carnilim, et par s'installer sur le trône. Ensuite, il a mis le siège à Razama et le roi local Sharaya a envoyé des appels au secours à Hammurabi de Babylone et à Zimrilim de Mari. Mais vous vous rappelez qu'à ce moment-là, Zimrilim se trouvait à Ougarit, non pas pour des vacances au bord de la plage, mais parce qu'il aidait le roi d'Alep à soumettre le roi d'Ougarit rebelle. Et donc Zimrilim rentra dans son royaume à marche forcée, mais entre-temps, une armée formée d'Élamites et d'Echtounéens avait réussi à s'emparer de Shubat Enlil, et c'est à ce moment-là que le général Élamite Kunam est dit s'installer, selon les textes, à Cherna ou à Shubat Enlil. Malheureusement, la fouille de Leilan n'a relevé jusqu'à présent aucune trace de la présence de l'Élamite Kunam et de ses troupes, et Khaya Aboum a été victime des événements, étant exécuté par Lawila Addu, qui était un général d'Atamrou. Kunam a exigé que les rois de la région se soumettent et viennent lui apporter un tribut, et c'est à ce moment-là que la situation à Ilansura est devenue critique. Pris de panique, Khayasumu se rendit à Shubat Enlil faire allégeance, et c'est à ce moment-là que son épouse Kirou lui a adressé des reproches et que la situation entre le roi et son épouse Kirou s'est dégradée, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Après le départ des troupes élamites et echtounéennes, c'est Atamroum qui a exercé sa domination sur la ville, et après sa mort, c'est son successeur sur le trône d'Andarig, nommé Khimdiya. Nous reverrons cela dans deux semaines. Un des grands intérêts des fouilles de Tel Leilan, c'est d'avoir donné de nombreux textes qui sont postérieurs à la chute de Mari. Ces textes ont été retrouvés dans le palais oriental de la ville basse et appartiennent au règne de trois rois, Mutu Abir, qui s'appelle aussi Mutiya, Tilabnu, qui s'appelle aussi Tilaya, et Yakunashar, tout cela se passant entre 1755 et 1728. Malheureusement, après les deux campagnes de 1985 et de 1987, le dégagement de ce palais n'a pas été poursuivi, alors qu'il est clair que moins de 10% de sa surface a été fouillée. C'était pourtant une occasion unique de fouiller en totalité un palais du bronze moyen avec les techniques d'aujourd'hui, qui sont bien différentes de celles qu'on pouvait avoir lorsque Parot fouillait le palais de Mari dans les années 30, mais l'archéologue en a décidé autrement. Tous les documents écrits donc, appartiennent à la dernière phase d'occupation, le niveau 2. On a ainsi la pièce 2 qui a livré 60 tablettes et 40 scellements qui sont des archives du vin datant de Yakunashar et qui ont été étudiées par Farouk Ismail dans sa thèse. Les lettres traitées ont pour l'essentiel été retrouvées avec des centaines de textes administratifs dans la petite pièce 22, mais aussi en partie dans la salle 17 adjacente, de sorte qu'il est possible que ces archives aient en fait été entreposées à l'étage au-dessus de ces deux pièces. Et donc, quand l'étage s'est écroulé, il y a une partie des tablettes qui sont allées d'un côté ou de l'autre. Et donc, on a des statuts différents. Clairement, dans la pièce 2, on a des archives qui datent du moment de la destruction finale du palais sous Yakunashar, donc des archives vivantes, tandis que ce qui a été retrouvé dans les pièces 17 et 22, ça datait des deux rois antérieurs, et donc des archives qui n'étaient plus utilisées à cette époque-là. Malheureusement, le reste des archives du dernier roi, Yakunashar, eh bien, ça se trouvait ailleurs dans le bâtiment, et ça n'a pas été retrouvé. Donc, on a des textes qui ont été découverts en 1985, et l'épigraphiste à ce moment-là, c'était Robert Whiting, qui a rapidement publié un catalogue commenté des 183 objets inscrits découverts lors de cette campagne, ainsi qu'une étude sur leur contexte chronologique. Et petit souvenir, je me rappelle encore, donc on commençait à travailler dans la région et on était allé rendre visite à la mission et donc il travaillait avec des tas de tablettes sur sa table et je venais de sortir de Enfin, je venais de faire ma communication sur le fait que Cherna était l'autre nom de Shubat Enlil. On était à l'automne qui suivait, et il me dit, tiens, regarde cette tablette. Alors je regarde, il y a écrit Ina Cherna. Il me dit, regarde celle-là, Ina Cherna. Et puis une troisième, etc. Donc il avait tout un tas de tablettes qui montraient que les textes avaient été écrits à Cherna, ce qui était la preuve définitive que Tel Leilan était bien Cherna, et donc aussi Shubat Enlil. Les textes de 1987 ont été répartis en plusieurs lots. 500 textes administratifs donc, ont été confiés, comme je l'ai dit, pour des thèses à Claudine Vincent et à Farouk Ismail, mais elles ne sont connues que par des transcriptions. Il y a eu également un manuscrit de la liste royale sumérienne qui a été publié par Claudine Vincent, et puis donc les 200 lettres et puis quelques fragments supplémentaires et les 5 traités ont été confiés à Jesper Haydem. Je vous passe l'histoire très compliquée de la publication, mais finalement, le volume est paru en 2011 et j'ai apporté un certain nombre de compléments et de commentaires dans 2 articles de la revue d'Assyriologie. Et je voudrais, pour finir, étudier avec vous 2 textes particulièrement intéressants. On en verra d'autres, rassurez-vous, dans les 4 semaines qui nous restent. Un des plus beaux textes a été publié bien avant l'ensemble des archives, et c'est de fait une lettre au contenu tout à fait remarquable. Dit Attila Bnou, ainsi parle Ehamalik. Auparavant, Moutilla, avant qu'il accède à son trône, avait promis à plusieurs reprises « Si j'accède à mon trône, je donnerai à Belet-Nagar, ma maîtresse, de l'argent, de l'or, des vases en argent, des vases en or et des servantes capables. » Voilà ce qu'il avait promis à plusieurs reprises. Mais quand cet homme a accédé à son trône, il ne s'est plus soucié de la déesse et il n'est absolument pas allé rendre visite à la déesse. À présent, c'est toi que la déesse a touché du doigt et tu as accédé au trône de la maison de ton père. D'ici 14 jours, la déesse doit sortir de son temple et les bornes frontières seront réarrangées. Et le visage de la déesse sera dirigé vers la ville d'Ala. Donne ce que désire la déesse, ne le retiens pas. Il ne faudrait pas que tu trouves un prétexte en ces termes. Les troupes nous pressent, nous sommes ruinés. Ne dis pas cela. Pourvois la déesse avec ce qui est disponible et puisse cette déesse te faire vivre. À présent, je viens de t'envoyer le prêtre Shangoum de Belet-Nagar, ta maîtresse. Dépose pour lui ton rapport complet, quel qu'il soit, et envoie-le-moi. Alors, on savait déjà que Yakunashar avait été le dernier roi de Cherna, vaincu par Samsu Iluna, comme le rappelle le nom de sa 23e année. Le premier avantage de ce texte a été de montrer de façon sûre que Moutilla avait précédé Tilabnou sur le trône. Et puis, par ailleurs, ce document est remarquable par l'exposé explicite qu'on y trouve du système des vœux aux divinités. Et pour la déesse Belet-Nagar, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie aux travaux de Michael Guichard. Et il y a une autre divinité pour laquelle on a des renseignements intéressants, c'est Belet-Apim. On a vu que son temple était décrit dans les archives de Marie. Eh bien, après la chute de Zimri-Lim, plusieurs lettres retrouvées à Tel Leilan comportent des bénédictions par Belet-Apim, éventuellement précédées par Shamash ou par Addu. Et le texte le plus intéressant à propos de son culte, c'est une lettre de remerciement envoyée au roi Moutilla. Dis à Moutilla, ainsi parle Ashtamar Addu, ton frère, puisque tu as accompli le sacrifice Elunum de Belet-Apim qui protège ta vie, et que tu as fait porter ma part, j'ai mangé sur ma part que tu as fait porter, et c'était très bon à goûter. Il y a encore beaucoup à moisseonner dans ces textes de Tel Leilan, et donc on va le faire en partie dans les cours qui suivront. Lundi prochain, nous allons nous diriger vers le nord, jusque dans la région du Haut-Tigre, ce qui nous donnera l'occasion de parler des Hourites, et je vous remercie de votre attention.
Collège de France. Le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.